de la Chine comme économie mixte autoritaire. Venons-en au cas du communisme et du post-communisme chinois. Il est bien connu que la Chine a tiré parti des échecs de l'URSS, ainsi que de ses propres errements lors de la période maoïste, 1949-1976, où les tentatives d'abolition complète de la propriété privée et d'industrialisation-collectivisation à marche forcée se sont terminées par un désastre, pour expérimenter, à partir de 1978, une forme inédite de régime politique et économique. Ces deux fondements sont, d'une part, le maintien, voire le renforcement, du rôle dirigeant du Parti communiste chinois, PCC, et d'autre part, le développement d'une économie mixte fondée sur un équilibre durable et inédit entre propriété publique et propriété privée. Commençons par ce second aspect, qui est essentiel pour comprendre les spécificités chinoises et qui permet également, en contrepoint, de voir sous un angle nouveau les trajectoires occidentales. La meilleure façon de procéder consiste à rassembler l'ensemble des sources disponibles sur la détention des entreprises, des terres agricoles, de l'immobilier résidentiel, des propriétés et des actifs et passifs financiers de toute nature, afin d'estimer la part de la puissance publique, tous échelons de gouvernement et de collectivités confondus, dans le total des propriétés. Ainsi, on peut comparer dans le graphique 12.6 l'évolution constatée en Chine avec celle observée dans les principaux pays capitalistes, États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France. La principale conclusion est que la part du capital public avoisinait les 70% du capital national en Chine en 1978, au moment du lancement des réformes économiques, avant de s'abaisser fortement pendant les années 1980 et 1990 et jusqu'au début des années 2000, puis de se stabiliser autour de 30% du capital national depuis le milieu des années 2000. Autrement dit, le processus de privatisation graduelle de la propriété en Chine s'est interrompu depuis 2005-2006. L'équilibre entre propriété publique et propriété privée n'a plus guère bougé depuis cette date. Compte tenu de la très forte croissance de l'économie chinoise, le capital privé continue évidemment de progresser. De nouveaux terrains sont aménagés, des usines et des tours sont construites, tout cela à un rythme effréné. Simplement, le capital développé sous détention publique progresse approximativement à la même allure que le capital détenu par des personnes privées. En ce sens, la Chine semble se stabiliser autour d'une structure de propriété que l'on peut qualifier d'économie mixte. Le pays n'est plus communiste, puisque la propriété privée représente dorénavant près de 70% du total des propriétés. Mais il n'est pas non plus complètement capitaliste, puisque la propriété publique représente toujours un peu plus de 30% du total, ce qui est certes minoritaire, mais tout de même très substantiel. Le fait de détenir près d'un tiers de tout ce qu'il y a à posséder dans le pays donne à la puissance publique chinoise, sous la houlette du PCC, des possibilités d'intervention considérables pour décider de la localisation des investissements et des créations d'emplois, et pour mener des politiques de développement régional. On notera que cette part moyenne d'environ 30% pour le capital public dissimule des différences très importantes suivant les secteurs et les catégories d'actifs. D'un côté, l'immobilier résidentiel a été presque entièrement privatisé. La puissance publique et les entreprises détiennent à la fin des années 2010 moins de 5% du stock de logements, qui sont devenus le placement privé par excellence pour les ménages chinois qui en ont les moyens, ce qui a contribué à faire monter en flèche les prix immobiliers, d'autant plus que les possibilités d'épargne financière sont limitées et que le système de retraite publique est sous-provisionné et suscite de nombreuses inquiétudes. À l'inverse, la puissance publique détient dans les années 2010 autour de 55-60% du capital total des entreprises, en rassemblant l'ensemble des sociétés cotées et non cotées, toutes tailles et tous secteurs confondus. Cette part est restée quasiment inchangée depuis 2005-2006 et témoigne du maintien d'un contrôle étroit du système productif par l'État et le PCC, et même d'une accentuation du contrôle des plus grandes entreprises. On observe également depuis le milieu des années 2000 une baisse significative de la part du capital des entreprises détenues par les investisseurs étrangers, compensée par une hausse de la part détenue par les ménages chinois, passant d'à peine 20% en 2002 à plus de 30% entre 2014 et 2018. Voir graphique 12.7. Des années 1950 aux années 1970, les pays capitalistes étaient eux aussi, avec des variations importantes suivant les cas, des économies mixtes. Les actifs publics étaient significatifs, sous forme d'infrastructures et bâtiments publics, d'écoles et d'hôpitaux, et souvent d'entreprises publiques et de participations financières dans divers secteurs. Les dettes publiques étaient en outre historiquement faibles, suite aux inflations de l'après-guerre et aux diverses mesures mises en place pour réduire les dettes à vive allure, en particulier sous forme de prélèvements exceptionnels sur le capital privé et d'annulations pures et simples. Au total, la part du capital public net de dette dans le capital national était généralement comprise entre 20 et 30% dans les pays capitalistes au cours de la période 1950-1980. À la fin des années 1970, d'après les estimations disponibles, elle se situait autour de 25-30% en Allemagne et au Royaume-Uni et 15-20% en France, aux États-Unis ou au Japon. Il s'agit là de niveaux qui sont certes inférieurs, mais pas incomparables à la part du capital public en Chine aujourd'hui. La différence est que les pays occidentaux ont depuis longtemps cessé d'être des économies mixtes. Compte tenu des privatisations d'actifs publics, en particulier dans les industries de réseau, des investissements limités dans les secteurs qui sont restés publics, éducation, santé notamment, et de la hausse continue de l'endettement public, la part du capital public net dans le capital national est devenue quasi nulle, moins de 5% dans tous les grands pays capitalistes, et elle est même devenue négative aux États-Unis et au Royaume-Uni. Autrement dit, dans ces deux pays, les dettes publiques dépassent la valeur de la totalité des actifs publics. Je reviendrai plus loin sur ce que cela signifie et implique. À ce stade, notons simplement la rapidité de l'évolution. Lorsque je publiais « Le capital au XXIe siècle » en 2013, les dernières données complètes disponibles portaient sur les années 2010-2011, et parmi les pays développés, seule l'Italie avait des dettes publiques dépassant le capital public. 6 années plus tard, en 2019, avec des données allant jusqu'en 2016-2017, il apparaît que les États-Unis et le Royaume-Uni sont également entrés en territoire de richesse publique négative. À l'inverse, la Chine paraît stabiliser durablement dans une structure d'économie mixte. Il est certes impossible de prédire comment cette situation va évoluer à long terme. Le cas chinois est dans une large mesure unique dans l'histoire. Les débats autour de nouvelles privatisations font rage dans le pays, et il est difficile de prévoir comment ils vont évoluer. À l'horizon prévisible, le plus probable est que l'équilibre actuel va perdurer, d'autant plus que les demandes de changement proviennent souvent de camps idéologiques opposés et prennent des formes contradictoires. Des intellectuels sociaux-démocrates demandent de nouvelles formes de partage du pouvoir et de décentralisation, en particulier avec un rôle important pour les représentants des salariés et les syndicats indépendants, actuellement inexistants, et une diminution du rôle du parti et des administrations étatiques locales. À l'inverse, les milieux d'affaires demandent de nouvelles privatisations et un renforcement du rôle des actionnaires privés et des mécanismes de marché, en vue de faire évoluer la Chine vers un modèle capitaliste de type anglo-saxon. Dans les deux cas, les dirigeants du PCC considèrent qu'ils ont de bonnes raisons de s'opposer à de telles évolutions, qui à leurs yeux risqueraient de remettre en cause à terme le développement harmonieux et unitaire du pays, et aussi de réduire leur propre rôle. Avant d'aller plus loin, plusieurs points méritent d'être précisés concernant ces résultats. De façon générale, il faut rappeler combien les notions mêmes de propriété publique ou de propriété privée ne sont pas figées et intangibles. Elles dépendent des spécificités de chaque système légal, économique et politique. Les évolutions temporelles et les comparaisons internationales indiquées sur le graphique 12.6 à propos de la chute de la part de la propriété publique en Chine entre 1978 et 2008 fournissent des ordres de grandeur qui peuvent être considérés comme significatifs, mais dont la précision ne doit pas être exagérée. Par exemple, dans le contexte chinois, une partie des terres agricoles était privée dès avant les réformes de 1978, dans le sens où elles pouvaient être transmises des parents aux enfants, le cas échéant en bénéficiant des améliorations apportées aux parcelles, à la condition toutefois de demeurer officiellement un résident rural au sens du UKU, passeport intérieur. Dans le cadre de ce système d'enregistrement de la résidence et de contrôle de la mobilité, chaque Chinois dispose en effet d'un permis de résidence officiel, sous forme d'un UKU rural ou d'un UKU urbain. Un résident rural peut partir travailler en ville et conserver la propriété de terres agricoles, mais uniquement si cette migration est temporaire. S'il souhaite migrer de façon permanente et s'il satisfait aux conditions requises, notamment concernant le nombre d'années de résidence, il peut alors demander la transformation de son UKU rural en UKU urbain, ce qui est souvent indispensable pour que ses enfants et sa famille accèdent à certaines écoles et divers services publics, santé, etc. Mais dans ce cas, il perdra entièrement la propriété de ses terres agricoles laissées au village, y compris la plus-value sur la valeur des terrains, qui peut être considérable compte tenu de la hausse des prix fonciers, ce qui explique pourquoi une partie des migrants préfèrent garder un UKU rural. Les terres en question seront alors transférées au gouvernement local, qui les attribuera à d'autres individus munis d'un UKU rural du village correspondant. On voit donc qu'il s'agit d'une forme de propriété intermédiaire entre propriété privée et publique, dont les règles exactes ont évolué et ont été assouplies au cours du temps, ce dont nous avons tenté de tenir compte dans nos estimations de façon par nature approximative. Richesse publique négative, toute puissance de la propriété privée. Plus généralement, il faut souligner que la notion de capital public, prise en compte dans ces estimations, est extrêmement restrictive, dans le sens où elle suit dans une large mesure les concepts et les modes d'évaluation utilisés pour les propriétés privées. Les seuls actifs publics pris en compte sont en effet ceux qui sont susceptibles de faire l'objet d'une exploitation économique ou d'une cession, et leur valeur est évaluée au prix de marché auquel cette cession pourrait se faire. Par exemple, les bâtiments publics, comme les écoles et les hôpitaux, sont pris en compte à partir du moment où il existe des exemples de cession de tels actifs et que l'on peut utiliser des valeurs de marché observées en cette occasion, ou des prix au mètre carré constatés pour des bâtiments similaires. Nous avons suivi en cela les règles officielles définies par les Nations Unies en matière de comptabilité nationale. Nous reviendrons dans le prochain chapitre sur ces règles qui posent de multiples problèmes, en particulier concernant les ressources naturelles qui ne commencent à être intégrées dans les comptes nationaux officiels qu'à partir du moment où elles sont exploitées commercialement. Cela conduit mécaniquement à sous-estimer l'ampleur de la dépréciation du capital naturel et à surestimer la croissance réelle, puisque cette dernière est en partie obtenue en piochant dans des réserves qui étaient là depuis toujours, tout cela en contribuant à la pollution de l'air et au réchauffement climatique, ce qui n'est pas davantage intégré dans les comptes nationaux officiels. À ce stade, deux points méritent d'être mentionnés. D'une part, si l'on cherchait absolument à attribuer une valeur à la totalité des actifs publics, au sens le plus large, et en particulier à l'ensemble des éléments du patrimoine naturel et cognitif dont dispose l'humanité, et qui fort heureusement n'ont pas encore fait l'objet pour la plupart d'une appropriation privée, tout du moins jusqu'à présent, y compris les paysages, les montagnes, les océans, l'air, les connaissances scientifiques, les créations artistiques et littéraires, etc., alors il est bien évident que la valeur du capital public serait bien supérieure à celle de toutes les propriétés privées, quelle que soit la définition raisonnable que l'on puisse attribuer à la notion de valeur. En l'occurrence, il n'est pas sûr du tout qu'une telle entreprise de comptabilisation généralisée ait le moindre sens ou la moindre utilité pour le débat public. Il n'en reste pas moins qu'il est important de rappeler cette réalité essentielle, la valeur du capital privé et public, tel qu'il est évalué sur la base des prix de marché par les comptes nationaux, ne correspond qu'à une toute petite partie de ce qui a une valeur pour l'humanité, à savoir les actifs que la collectivité a choisi d'exploiter, à tort ou à raison, sur la base de transactions économiques et marchandes. Nous y reviendrons plus en détail dans le prochain chapitre, en particulier concernant la question du réchauffement climatique et de la possession des connaissances. D'autre part, la dégradation tendancielle du capital naturel implique que la baisse de la part du capital public, au sens restreint du capital cessible et marchand, indiqué dans les comptes nationaux officiels, sous-estime la gravité des évolutions en cours. en particulier que le capital public, au sens restreint, soit devenu négatif ou quasi nul dans la plupart des pays capitalistes, est extrêmement préoccupant. Cela réduit en effet considérablement les marges d'action des gouvernements, en particulier pour s'attaquer à des défis majeurs comme le climat, les inégalités ou l'éducation. Précisons en effet ce que signifie un capital public négatif, au sens observé actuellement dans les comptes officiels établis pour les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Italie. Cela veut dire que la mise en vente de l'ensemble des actifs publics cessibles, et en particulier de l'ensemble des bâtiments publics, écoles, hôpitaux, etc., et des entreprises et actifs financiers publics, quand ils existent, ne serait pas suffisante pour rembourser la totalité des dettes publiques à ceux qui les détiennent, directement ou indirectement. Concrètement, une richesse publique négative correspond à une situation où les propriétaires privés détiennent, au travers de leurs actifs financiers, non seulement la totalité des actifs et bâtiments publics dont ils touchent les intérêts, mais également un droit de tirage futur sur les recettes fiscales versées par les contribuables. Autrement dit, le total des propriétés privées est supérieur à 100% du capital national, car les propriétaires privés possèdent également les contribuables, ou une partie des contribuables en quelque sorte. Si la richesse publique poursuivait sa trajectoire et devenait de plus en plus négative, alors les intérêts de la dette pourraient absorber une part croissante et potentiellement considérable des prélèvements obligatoires. Les origines de cette situation et les perspectives qu'elle ouvre peuvent s'analyser de différentes façons. Si le capital public est devenu quasi nul, voire négatif dans la quasi-totalité des pays riches depuis les années 1980-1990, cela traduit tout d'abord une profonde transformation politico-idéologique par rapport au régime en place dans les années 1950-1980, où la puissance publique détenait autour de 20-30% du capital national. Cette situation exprimait une volonté de reprise en main du capitalisme privé. Dans un contexte marqué par la crise des années 1930, les guerres mondiales et le défi communiste, les gouvernements firent le choix de se débarrasser à vive allure des dettes publiques issues du passé, afin de se redonner des marges de manœuvre pour investir dans les infrastructures publiques, l'éducation et la santé, tout en procédant à des nationalisations d'entreprises anciennement privées. À l'inverse, la chute de la richesse publique depuis les années 1980-1990 découle en partie d'un renversement de perspective idéologique avec la montée en puissance de l'idée selon laquelle les actifs publics sont mieux gérés en dehors de la sphère publique et doivent donc être privatisés. On notera d'ailleurs que la hausse de valeur totale des propriétés privées, qui est passée d'à peine 3 années à environ 5 ou 6 années de revenu national dans les pays riches entre les années 1980 et les années 2010, a été incomparablement plus forte que la baisse de la richesse publique. Les privatisations et la chute de la richesse publique n'expliquent qu'une partie de la hausse des patrimoines privés, entre 1/5 et 1/3 suivant les pays. Le reste s'expliquant par l'accumulation d'épargne dans un contexte de croissance ralentie et surtout de hausse des prix immobiliers et boursiers, elle-même en partie due à des changements du régime légal et politique favorables aux propriétaires. Autrement dit, les pays riches sont riches. Ce sont leurs gouvernements qui ont choisi de devenir pauvres, ce qui est très différent. Rappelons également que ce sont bien les propriétaires des pays riches qui détiennent en moyenne les dettes publiques de leur pays, dans le sens où la position patrimoniale nette des pays riches, États-Unis, Europe, Japon, est positive. Les actifs financiers détenus par ces pays dans le reste du monde dépassent nettement ceux détenus par le reste du monde dans ces pays. La fuite en avant de l'endettement, l'impossibilité perçue de l'impôt juste. En ce qui concerne la hausse de l'endettement public, l'analyse des origines de cette évolution est plus complexe. Dans l'absolu, il peut exister toutes sortes de raisons pour accumuler une dette publique. Par exemple, s'il existe un surplus d'épargne privée mal investi, dans le court terme ou dans le long terme, ou bien si la puissance publique estime disposer d'opportunités d'investissement matériel, infrastructures, transport, énergie, etc., ou immatériel, éducation, santé, recherche, dont le rendement social semble supérieur à celui des investissements privés ou au taux d'intérêt auquel emprunte la puissance publique. Le problème est avant tout une question de proportion et de taux d'intérêt. Si la dette devient trop importante et les intérêts trop élevés, alors cela finit par grever toute possibilité d'action publique. En pratique, la hausse de l'endettement public depuis les années 1980-1990 a été pour partie la conséquence d'une stratégie délibérée visant à réduire le poids de l'État. L'exemple type est la stratégie budgétaire suivie sous Reagan dans les années 1980. On choisit de réduire fortement les impôts sur les plus hauts revenus, ce qui creuse le déficit et ce qui conduit ensuite à mettre la pression pour réduire les dépenses sociales. Dans de nombreux cas, les baisses d'impôts sur les plus riches ont ensuite été financées par des privatisations d'actifs publics, ce qui au final revient à un transfert gratuit des titres de propriété. On baisse les impôts de 10 milliards de dollars sur les plus riches, qui ensuite utilisent ces 10 milliards pour acheter les actifs en question. Cette stratégie s'est poursuivie aux États-Unis et en Europe jusqu'à nos jours, et est directement liée à une trajectoire d'accroissement des inégalités et de concentration croissante de la propriété privée. Pour un exemple récent et vivement contesté, voir le projet de privatisation du groupe ADP, Aéroports de Paris, adopté par le gouvernement français en 2019, qui prévoit de récolter 8 milliards d'euros de cette vente, le tout après s'être privé de 5 milliards d'euros de recettes par an en supprimant l'ISF, impôt sur la fortune, et l'impôt progressif sur les revenus du capital. Plus généralement, cette évolution peut aussi se voir comme la conséquence de l'impossibilité perçue de l'impôt juste. À partir du moment où l'on ne parvient pas à mettre à contribution les groupes de revenus et de patrimoine les plus élevés, compte tenu de la compétition fiscale entre pays, et où le consentement fiscal des classes moyennes et populaires s'effrite, la fuite en avant vers l'endettement peut apparaître comme une option tentante. En tout état de cause, il reste à savoir à quoi conduit cette évolution. Il existe un précédent historique important en la matière, le Royaume-Uni au XIXe siècle, qui, avec une dette publique dépassant 2 années de revenu national à l'issue des guerres napoléoniennes, soit près du tiers des propriétés privées détenues dans le pays, était alors en situation de richesse publique violemment négative. Comme nous l'avons déjà noté, la situation s'est réglée par le paiement régulier de forts excédents budgétaires, environ un quart des recettes fiscales, des contribuables britanniques, modestes et moyens, au bénéfice des propriétaires. Tout cela pendant un siècle, de 1815 à 1914. Cela correspondait cependant à une époque où seuls les propriétaires disposaient du droit de vote et du pouvoir politique, tout du moins au début de la période, et où la capacité de persuasion de l'idéologie propriétariste était plus forte qu'aujourd'hui. Au XXIe siècle, après que de très nombreux pays se sont débarrassés à vitesse accélérée au XXe siècle des dettes issues des guerres mondiales, il paraît peu probable que les contribuables des classes moyennes et populaires auront cette patience. À ce stade, la question est toutefois moins prégnante qu'elle pourrait l'être compte tenu du niveau inhabituellement bas des taux d'intérêt sur les principales dettes publiques. Il n'est pas sûr cependant que cette situation dure éternellement, auquel cas cette question deviendra très vite un élément majeur de reconfiguration du conflit sociopolitique et électoral, en particulier en Europe. Nous y reviendrons. On notera enfin le contraste frappant entre les trajectoires suivies en Chine et dans les pays occidentaux depuis le milieu des années 2000. Alors que la Chine a stabilisé depuis 2006 la part du capital public dans le capital national autour de 30%, la crise financière de 2007-2008, qui avait pour origine un excès de dérégulation de la finance privée et qui a contribué à de nouveaux enrichissements privés, a au contraire conduit en Occident à un nouvel affaissement de la richesse publique. Il ne s'agit certes pas d'idéaliser la situation de la propriété publique en Chine, et encore moins de prétendre connaître le niveau idéal de la part du capital public dans une société juste. À partir du moment où l'État assure lui-même la production d'un certain nombre de biens et services, notamment dans l'éducation et la santé, il ne serait pas anormal qu'il détienne une part du capital productif qui soit en rapport avec sa part dans l'emploi total, mettons autour de 20%. Ce critère reste cependant très insuffisant. Par exemple parce qu'il ignore le rôle potentiel de l'État et de l'endettement public pour orienter l'épargne vers la préservation du capital naturel et l'accumulation de capital immatériel. Surtout, La véritable question porte sur les formes de gouvernance et de partage du pouvoir qui servent de soubassement aux différentes formes de propriété publique et de propriété privée et qui doivent sans cesse être questionnées, réévaluées et réinventées. En l'occurrence, le mode de gouvernance de la propriété étatique chinoise brille par son caractère vertical et autoritaire et peut difficilement tenir lieu de modèle universel. Il reste que le nouvel affaiblissement de la richesse publique occidentale à la suite de la crise financière a quelque chose de paradoxal. La dérégulation des marchés a contribué à de nombreux enrichissements. La puissance publique s'est endettée pour faire face à la récession et sauver les banques et les entreprises privées, et au final, les patrimoines privés ont poursuivi leur progression, laissant aux contribuables modestes et moyens le soin de régler l'addition pour les décennies suivantes. Nous verrons que ces épisodes ont eu de profondes répercussions sur les perceptions de ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire, notamment en termes de politique économique et de création monétaire dont nous n'avons sans doute pas vu le bout.